D'ouvrir cette séance du conseil municipal et je vais tout de suite procéder à l'appel. Alors Pierre, oui, Balestra Claude, Balestra Johan, Beaubreuil Bernard, Baudet Hervé, Chabot Mireille, Chazla Laurence, Chazelle Anne-Sophie, Quendo Lucia, Compère Béatrice, Couco Nadège, Crossi Eliane, Dauvergne Frédéric, Desroches Bernadette, Gandois Philippe, Gerbo Alex, Granet Thierry, Ladune Clémence va arriver avec un petit peu de retard, Laurentier Noël, Le Kiev Didier, Malagnou Bruno, Murat Laure, Pesquet Aurabelle, Joël Pichon est excusé à donner pouvoir à Didier Le Kiev. Elle va peut-être nous rejoindre, mais elle avait une pause de scellé à effectuer. Piel Jean-Sébastien, Pic Clémence, Razo Afenoso Esther, Roi Didier, Séba Julia, Simono Christelle excusé, représentée par Thierry Granet, Tarno Nathalie, Tricard Stéphanie excusé, représenté par Bernadette Desroches et Vacheux Christophe. Dans l'ordre du tableau, secrétaire de séance, notre collègue Mireille Chabot. Vous avez sur table le rapport sur le prix et la qualité des services de l'eau et de l'assainissement pour l'année 2019. Donc, comme le prévoit notre règlement intérieur, vous pouvez en prendre connaissance. Et si vous avez des questions, elles seront posées, elles doivent être posées à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, puisque on n'a pas la possibilité d'examiner la totalité du document dans l'immédiat. Je vous propose, avant d'aller au compte-rendu du conseil municipal de la séance du 16 novembre, je me permets de rappeler à l'Assemblée que M. Jacques Barrière, qui était né le 12 mai 1931 à Aix-sur-Vienne, ouvrier textile, élu conseiller municipal le 14 mars 1965 jusqu'aux élections du 13 mars 1977, qui habitait cité Jaurès, puis 9 rue du 8 mai 1945, qui avait été membre de la 5e commission en charge de l'instruction publique et délégué au conseil d'administration du patronage laïque municipal, puis membre de la 3e commission en 1971, est décédé le 28 novembre 2020, et M. Camille Desbordes, né le 21 mai 1926 dans le village de Roussy, sur la commune de Cognac-la-Forêt. Ses parents étaient tous les deux cultivateurs. Le 13 avril 1950, toujours à Cognac-la-Forêt, il se mariait avec Marie-Jeanne Barre, également institutrice. Indissociable de l'école Joliot-Curie, il fut l'un des instituteurs, dès son ouverture, avec notamment la rentrée de 1962-63, et il en sera d'ailleurs le directeur par la suite. Au départ installé dans les logements de l'école de garçons du boulevard de la République, le couple fait construire sa maison dans l'impasse Massé en 1965. Il est élu conseiller municipal de la municipalité de Roland-Mazoin le 6 mars 1983. Secrétaire des 2e et 4e commissions municipales, il était également membre de la 1ère commission. Il siégeait également en tant que titulaire au CIMAVO, puis au conseil d'administration de l'office HLM, au syndicat d'électrification d'Oradour-sur-Glane et au SICTOM, ainsi qu'au syndicat départemental des communes et du personnel en tant que suppléant. Il ne se représentera pas aux élections municipales de 1989, mais restera très actif dans des conseils d'administration et lors des élections où il ne manque pas d'être assesseur ou scrutateur. En 1999, il est pris dans la tourmente de l'office HLM contre M. Carnero, qui ne prendra fin qu'avec l'arrêt de non-lieu rendu par la Cour de Bordeaux du 12 juin 2007. Très affecté par cette histoire, malgré les nombreux soutiens officiels, sa santé se dégrade considérablement à partir de 2000. Le 18 juin 2016, un hommage lui est rendu dans les murs de son école Joliot-Curie afin de lui fêter ses 90 ans. Il est décédé le 26 novembre 2020. Pour ces deux conseillers municipaux, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Je vous propose donc maintenant de passer à notre ordre du jour du conseil municipal, avec notamment la validation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 16 novembre 2020. Est-ce qu'il y avait des remarques ? Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Je vous propose de passer la parole à notre collègue Julia Seba pour l'acquisition de parcelles à la SAS Sojudis.
Lors des différents aménagements successifs du centre Leclerc et de la station-service de l'enseigne située avenue d'Oradour-sur-Glane et rue Robert-Doisneau, des modifications de la voirie ont été nécessaires. Ces dernières ont donné lieu à des découpages parcellaires qui n'ont pas été régularisés à ce jour. Afin de régulariser ce dossier, il est proposé au conseil municipal d'acquérir les parcelles cadastrées section AC 427, 428, 477 et les parcelles cadastrées section EK 464 et 466. Ces acquisitions sont réalisées au prix symbolique de 1 euro. Les frais d'acte notarié sont à la charge de la collectivité. Dès leurs acquisitions, les parcelles cadastrées section AC 427, 428, 477, EK 464, 466 seront incorporées au domaine public de la commune. De même, les parcelles cadastrées section EK 341, 344 appartenant à la commune seront également intégrées au domaine public communal.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur d'Auvergne.
Monsieur le maire, chers collègues, en premier lieu, je m'interroge sur les raisons pour lesquelles ces découpages parcellaires, certes justifiés par l'opération d'aménagement du centre Leclerc, ne sont pas encore actés devant le notaire, alors que les opérations de construction, elles, sont achevées depuis plusieurs mois. En second lieu, s'agissant des nouvelles parcelles donc issues des opérations de division, elles ne sont pas clairement identifiables sur le plan qui nous a été fourni. Il m'a fallu quand même plusieurs lectures pour les situer sur ce plan. Enfin, s'agissant des parcelles AC427 et AC428, je ne parviens pas à les identifier. Est-ce qu'il sera possible de nous fournir un plan plus précis ?
Ben, on va vous montrer le plan. Alors, pourquoi ça passe maintenant ? C'est parce qu'on le passe une fois qu'on a les divisions parcellaires par le cabinet de géomètre qui attend que l'ensemble des opérations soit terminée pour faire sa division cadastrale avec les mesures exactes et attribuer les nouveaux numéros de parcelles cadastrales. Et une fois qu'on a toutes ces parcelles cadastrales, on a décidé de ne faire qu'un acte et pas un acte à chaque parcelle. Donc voilà, c'est uniquement cette raison-là. Pour tout vous dire, la dernière division cadastrale qui ne concerne pas le centre Leclerc mais une autre a pris 6 mois avant que l'on ait les numéros de parcelles. Alors le géomètre n'est pas forcément responsable, mais ça peut prendre beaucoup de temps des fois avec le service des domaines. Là, on a attendu que tout soit terminé au niveau du centre Leclerc et vous avez les surfaces exactes qui ont été déterminées par le cabinet Vincent et donc maintenant on régularise cette situation mais qui correspond de toute façon au plan qui avait été présenté initialement par le centre Leclerc et donc aux divisions parcellaires qui sont effectuées par géomètre. Voilà. Donc vous avez le document qui vous est remis. Alors après, le document avec les détails plus précis, c'est le géomètre qui l'établit et qui obtient de la part du service des domaines les numéros de parcellaires, les nouveaux numéros parcellaires, puisque ça veut dire que c'est des découpages de parcelles. Vous aviez des grandes parcelles qui deviennent des moins grandes et des plus petites parcelles avec 2 ou 3 numéros de parcelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Madame Tarnot.
Même si je vois bien que ces parcelles sont très petites, est-ce qu'on a une idée de l'aménagement qu'on pourrait en faire ? Est-ce que ce serait possible éventuellement de les végétaliser ?
Mais c'est de la voirie. Oui. C'est de la voirie, c'est-à-dire que c'est unique.
C'est de la voirie.
Oui, c'est que de la voirie.
Je me rendais pas compte. Okay.
C'est, si vous voulez, c'est quand vous avez quand vous avez une voie d'insertion, ça peut être par exemple une voie d'insertion pour entrer au centre Leclerc ou des choses comme ça. Donc c'est uniquement de la voirie. C'est, il n'y a rien d'autre que de la voirie.
Merci.
Ah oui, pardon. Pas de micro.
Oui, juste un complément technique. Il ne s'agit en fait ni plus ni moins que de la mise en cohérence de l'image du plan cadastral avec la réalité du terrain. C'est tout.
Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Notre collègue Hervé Baudet, concernant l'autorisation d'engager, de liquider, de mandater les dépenses d'investissement, qui est la délibération classique prise dans toutes les collectivités.
Bien, il vous est rappelé qu'au terme de l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits à la section de fonctionnement du budget de l'année précédente, ainsi que les dépenses inscrites en reste à réaliser de la section d'investissement. Afin d'assurer la continuité des services et en fonction des décisions retenues par les commissions municipales, il vous est proposé d'autoriser le maire à procéder à l'engagement, à la liquidation et au mandatement des dépenses d'investissement dans les limites prévues, soit 25% des crédits inscrits au budget 2020, déduction faite du chapitre 16 et des restes à réaliser. Et donc d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur le budget général dans la limite de 25% des crédits inscrits, comme suit, donc jusqu'à 400 000 euros pour le chapitre 20, jusqu'à 300 000 euros pour le chapitre 21 et jusqu'à 184 608 euros pour le chapitre 23.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Didier Lequieff pour les lignes directrices de gestion.
Vu la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, vu l'article 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret 2019-1265 du 29 novembre 2019 précisant les modalités de mise en œuvre des lignes directrices de gestion, vu l'avis du comité technique lors de sa réunion du 8 décembre 2020, considérant que ces lignes directrices de gestion visent à déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de GPEEC, de fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, 3. Favoriser en matière de recrutement l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Considérant que dans la mesure où les CAP n'examineront plus les décisions en matière d'avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021, il appartient à la collectivité de fixer avant cette date des critères d'arbitrage en termes de nomination des agents à un grade supérieur suite à un concours ou un avancement de grade. Considérant les critères proposés dans le document 6 juin à la présente délibération et notamment dans sa partie 4, promotion et valorisation des parcours professionnels.
Je remercie le rapporteur. Alors c'est l'application de la loi et puisqu'auparavant les dossiers passaient devant les commissions paritaires au niveau départemental au travers du centre départemental de gestion. Voilà, donc ça ne se fera plus. Monsieur Lequieff.
Oui, moi je voulais juste dire que sur les transformations de la fonction publique, qui n'est pas une bonne chose pour la fonction publique, même si on nous la vend comme une amélioration des dialogues sociaux, le fait d'enlever des représentants au CAP enlève ce côté paritaire qu'il pouvait y avoir entre les représentants élus par leurs collègues démocratiquement et qu'on se retrouve avec des directions, alors j'ai rien contre les directions ni contre les cadres, où ils vont être jugés partis et pouvoir enlever ce côté paritaire. Ben, je trouve ça c'est lamentable et la transformation, de toute façon, dans la continuité, ne va pas s'améliorer. Donc moi, personnellement, je voterai contre cette ligne.
Alors, je partage d'ailleurs, c'est une préoccupation de... Alors, bon, c'est la loi, hein, donc on est obligé quand même, pour ne pas bloquer les évolutions de carrière des agents, d'avoir des lignes directrices de gestion. Néanmoins, c'est une loi qui... Qu'un grand nombre de maires, et notamment tous les maires qui siègent au centre départemental de gestion, regrettent, parce que effectivement c'est une perte de la parité, c'est aussi une perte de conseil que les maires avaient au travers des commissions paritaires de la part des organisations syndicales qui représentaient, avec la neutralité qui doit être la leur, les personnels des administrations et de la fonction publique territoriale. Néanmoins, c'est une loi qui a été votée, donc on se doit de l'appliquer parce qu'on est en République, et on se doit malgré tout de, même si je fais partie de ceux qui ne sont pas d'accord, et nombre de maires d'ailleurs ne sont pas d'accord avec cette modification-là de la loi, on se doit d'avoir des lignes directrices de gestion pour assurer justement la pérennité de l'évolution de carrière de nos agents. Voilà, donc je dirais qu'on on fait contraint et forcé en quelque part, et quelque chose qui a été dénoncé par pratiquement tous les maires de la Haute-Vienne lors de la dernière mandature, puisque ça s'est passé lors de la dernière mandature. Et je peux vous dire que votre serviteur l'a fait aussi, puisque c'est moi qui préside les commissions paritaires au niveau départemental, et que je trouve particulièrement malsain pour la fonction publique de ne plus avoir les organisations syndicales en face, parce qu'on n'a jamais considéré les organisations syndicales comme étant des éléments perturbateurs, mais plutôt comme étant des personnes qui avaient la capacité à nous apporter un autre regard vu de l'intérieur de nos collectivités, en sachant que le mode de gestion n'est pas forcément le même dans toutes les collectivités. Et donc, quand on passe 400 dossiers dans les commissions paritaires, il est intéressant d'avoir les organisations syndicales qui, elles, ont été aussi fouillées les dossiers, enfin, quand je dis fouillées, grattées, préparées les éléments relatifs aux dossiers qui sont présentés. Ça ne se fera plus, c'est fort regrettable. Néanmoins, il faut quand même qu'on trouve des solutions pour ne pas bloquer les déroulements de carrière de nos agents. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Deux abstentions. Trois. Ah pardon. Trois. Des votes. J'avais vu une main bouger, j'ai pas vu vous. Des votes contre. 5, 6 avec Joël. Donc je suis plus loin. Trois abstentions, 6 votes contre, et donc approuvé à la majorité. Je vous en remercie. Je poursuis avec notre collègue Nadège Coucou, modification des règles d'application du compte épargne-temps.
Oui, donc le dispositif légal du CET dans la fonction publique territoriale a été modifié par l'article 37 de la loi numéro 2009-972 du 3 août 2009, qui est relative à la mobilité et au parcours professionnel dans la fonction publique, ceci afin de permettre aux agents territoriaux de bénéficier des mêmes possibilités de sortie du CET que les agents de l'État. Le décret numéro 2010-531 du 20 juin 2010, pris en application, organise le passage d'un régime géré sous forme de congé à un régime combinant une utilisation en congé avec une indemnisation financière ou en épargne-retraite. L'organe délibérant détermine, après avis du comité technique paritaire, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités de son utilisation. Les délibérations antérieures prévoyant des conditions d'utilisation du CET plus strictes que celles du nouveau décret doivent être abrogées, ne reposant plus sur aucune base juridique. Donc, vu l'avis du comité technique en date du 13 septembre 2016, vu la délibération de modification des règles d'application du compte épargne-temps en date du 17 octobre 2016 et vu le décret du 14 juin 2020, le maire propose à l'Assemblée de modifier les modalités d'application du compte épargne-temps détaillées dans la délibération du 15 décembre 2016 suite à la modification de la réglementation. Donc, en conséquence, le CET peut dorénavant être alimenté dans la limite de 70 jours au lieu des 60 jours initialement prévus, l'ensemble des autres modalités d'application du compte épargne-temps restant inchangées.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Là aussi, c'est l'application de la loi. Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Didier Roy, concernant le RIFSEP.
Merci, monsieur le maire. Vu la délibération du 12 décembre 2016 mettant en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions de l'expertise et de l'engagement professionnel, vu la délibération du 14 avril 2017 modifiant les primes et indemnités pouvant se cumuler ou non avec ce régime indemnitaire, considérant que ce régime indemnitaire est par principe exclusif de toute autre prime et indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Il convient de modifier la délibération du 14 avril 2017 et de préciser que l'indemnité pour travaux dangereux ne peut pas se cumuler avec le régime indemnitaire. En conséquence, ne peuvent se cumuler avec ce régime indemnitaire la prime de fonction et de résultat, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, l'indemnité d'administration et de technicité, l'indemnité d'exercice de mission des préfectures, la prime de service et de rendement, l'indemnité spécifique de service, la prime de fonction informatique, l'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avance et de recettes, l'indemnité pour travaux dangereux et insalubres. Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec la prime, article 11, au titre des avantages acquis avant 1984. La NBI, alors là, la NBI, c'est la notification. Voilà, merci, je l'avais noté, mais je, voilà. L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées, exemple frais de déplacement, les dispositifs d'intéressement collectif, les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire de la GIPA, les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail, heures supplémentaires, astreintes, etc. La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. Oui. Considérant la publication des décrets d'application relatifs à l'octroi de l'IFSE à certaines filières, il convient de modifier la délibération du 12 décembre 2016 et de préciser les groupes de fonctions pour ces filières. Il vous est donc demandé, après délibération, de décider de modifier la délibération du 14 avril 2017 et de préciser que l'indemnité pour travaux dangereux ne peut pas se cumuler avec le régime indemnitaire. De décider de modifier la délibération du 12 décembre 2016 et de préciser les groupes de fonctions concernant les filières pour lesquelles les décrets d'application relatifs à l'octroi de l'IFSE sont parus postérieurement. D'autoriser Monsieur le maire à signer les arrêtés individuels attribuant l'IFSE. Merci.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je précise que les sommes que vous avez, parce que ça peut toujours faire peur, les sommes que vous avez sur les tableaux sont les montants maximum qui sont calculés par rapport à la filière de l'État. Donc, ils ne sont pas ceux qu'on applique dans nos collectivités, mais le décret prévoit qu'on doit faire référence à ces montants-là. Donc, voilà, donc on fait référence, on remet dans le tableau systématiquement ces montants-là, mais ce sont vraiment les montants de l'IFSE maximal des fonctionnaires de l'État, qui n'est pas forcément appliqué non plus par l'État, mais qui est sur le tableau des grilles de la fonction publique d'État. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité, notre collègue Eliane Crossi concernant le tableau des emplois au 1er janvier 2021.
Merci. Donc, tableau des emplois, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre la modification d'un poste par rapport au budget. Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 16 novembre 2020, considérant l'avancement de grade d'un agent affecté au service voirie, considérant l'avancement de grade d'un agent affecté au service animation, Monsieur le maire propose au conseil municipal de créer un poste de technicien principal deuxième classe à temps complet, de créer un poste d'adjoint d'animation principal de deuxième classe à temps complet et de modifier le tableau des emplois ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2021. Donc, je vous fais grâce de vous lire les tableaux.
Tu n'oublies pas toutes les lignes du tableau ?
Non.
Bon. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Philippe Gandois concernant la revalorisation des loyers d'habitation au 1er janvier 2021.
La commune de Saint-Junien loue plusieurs logements dont la révision du loyer est fixée au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre. La revalorisation au 1er janvier 2021 des loyers tient compte de cette dernière. Il vous est donc demandé d'approuver à compter du 1er janvier 2021 la revalorisation des loyers dont la liste ci-après annexée et d'autoriser le maire à signer les avenants relatifs à cette révision.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc c'est la formule habituelle. Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Mireille Chabot concernant la revalorisation des redevances TDF, Scander et Lavor.
La commune de Saint-Junien a autorisé les sociétés TDF, Scander et Lavor à occuper le domaine communal moyennant le paiement d'une redevance annuelle révisable au 1er janvier en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre. Il vous est donc proposé de réviser à compter du 1er janvier 2021 le montant des redevances comme suit, sachant que l'indice INSEE du coût de la construction est au deuxième trimestre 2020 de 1753 et qu'il était de 1746 au deuxième trimestre 2019. Pour TDF, donc c'est pour l'implantation d'une station radioélectrique sur la caserne des pompiers, le tarif annuel au 1er janvier 2021 serait de 1029,66 €. Pour Scander, des dispositifs publicitaires sur le domaine communal, le tarif passerait à 4090,85 €. Et pour Lavor, qui a aussi des dispositifs publicitaires sur le domaine communal, le tarif serait de 3742,87 €.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Christophe Vacheux concernant... La même chose, mais pour la société Towercast.
Alors, par délibération du 29 septembre 2008, l'Assemblée communale a autorisé le maire à signer une convention avec la société Towercast.
Un tout petit peu plus fort, parce que l'enregistrement, il ne va pas entendre derrière.
Pour l'installation d'équipements supplémentaires radiophoniques sur le site du Château d'Eau et Séguines, la dite convention a effet au 1er novembre 2008 et consentie moyennant une redevance qui sera revalorisé annuellement au 1er janvier en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers du troisième trimestre. Ils vous ont proposé à l'Assemblée communale de reviser le montant de la redevance à compter du 1er janvier 2021 comme suit. Je vous laisse apprécier le détail, soit un loyer annuel de 4725,20 €.
Voilà. Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Alex Gerbeau concernant le recueil des tarifs 2021.
Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter les tarifs 2021 des divers services rendus à la population tels qu'ils figurent au recueil joint à la présente. Et je vais vous faire l'économie de tout lire.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Balestra.
Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Le groupe Énergie citoyenne se félicite qu'il n'y ait pas de hausse de tarifs globale. C'est un signal donné à tous et à chacun à l'heure où la crise économique risque de succéder à la crise sanitaire. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, certains tarifs ne sont pas acceptables dans leur construction car ils vont à l'encontre d'un principe qui, pour nous, est cardinal, à savoir celui de justice sociale. Nous voulons parler des tarifs liés au transport scolaire. En la matière, la région a mis en place des tarifs progressifs en fonction du quotient familial et du nombre d'enfants par famille. Or, l'aide que la majorité a adoptée et compte de nouveau valider ce soir est socialement injuste, car comme vous pourrez le constater sur un document qu'on vous propose de faire tourner, l'effort relatif fait par la mairie est plus important pour les hauts revenus que pour les bas revenus. À défaut d'une gratuité pour toutes les familles, solution que nous défendons, nous vous proposons de remplacer votre proposition par option 1 des aides progressives. Donc il s'agit d'apporter une aide plus forte en termes de pourcentage de participation à ceux qui ont moins. À défaut, option numéro 2, une aide proportionnelle Il s'agit d'un effort de participation semblable pour tous. Nous proposons ici 75%, mais ce chiffre peut être évidemment discuté. Dans les deux cas, il ne s'agit absolument pas d'un chamboulement des restes à charge pour les familles, il s'agit simplement de justice et de lisibilité du dispositif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous espérons vivement que cette demande réitérée recevra un avis positif de la part de la majorité. Et nous souhaiterions que formellement, ces deux propositions d'amendement de la délibération soient successivement soumises aux voix.
Donc, je ne vais pas reprendre l'explication, puisque j'ai déjà expliqué à de multiples reprises que sur les quotients familiaux, d'abord ce sont des quotients familiaux très bas, malgré tout, jusqu'à la troisième tranche, et que d'autre part, il y a pour les quotients familiaux inférieurs à 450 et à 650, des aides autres qui interviennent, qui ne sont pas prises dans les explications, mais je ne vais pas refaire l'explication, puisque chaque année, on fait la même explication. Après, si j'ai bien compris, vous souhaitez que cette délibération soit sortie des tarifs pour être votée à part. C'est ça? Non? C'est quoi? Alors, je n'ai pas compris, Johan, excuse-moi, mais avec le masque, j'entends...
Oui, moi, j'ai du mal à parler, et je pense que j'ai peut-être du mal à être aussi entendu, mes excuses. Simplement, on souhaiterait que ces propositions d'amendement, on soumette tableau numéro 1, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il... il soit changé dans la délibération, oui, non. Si c'est oui, on s'en félicite et du coup, la procédure s'arrête là. Si c'est non, on vous propose notre deuxième solution. Alors, on a mis 75% pour tous les revenus, oui, non. Et puis ensuite, passer au vote global des tarifs. Voilà. C'est simplement que chacun, en connaissance des chiffres tels qu'on vous les a remis, se positionne par rapport à notre proposition, parce que quand on regarde aujourd'hui les tarifs actuels, on est sur une participation en termes d'efforts proposés par la municipalité de 16,67% pour les tranches, la tranche numéro 1, c'est-à-dire la tranche avec les revenus les plus faibles. Et à l'inverse, si on prend la tranche numéro 5, on est à 76,67%. Donc c'est simplement faire en sorte de mettre de l'équité ou à défaut de l'égalité dans ces chiffres, puisque nous, on propose une participation qui serait de 95% pour la tranche 1, 90% pour la tranche 2, 85% pour la 3, 80% pour la 4, 75% pour la 5, ou à défaut, vous le voyez, c'est le dernier tableau, une participation de 75%, quels que soient les revenus, et ensuite, vous obtenez un reste à charge pour les familles qui est modifié, mais qui est beaucoup plus juste. Voilà.
Alors, oui. Si vous faites une participation de 75% pour tout le monde, je ne vois pas où est l'équité. Par rapport, si vous faites une équité par rapport aux revenus. Puisque votre participation, elle est par rapport à la somme qui est demandée par la région.
Oui, et la région fait déjà une proportionnalité en fonction du quotient familial. Donc en mettant nous un pourcentage fixe, on garde la proportionnalité mise en place par la région.
Oui, mais ça veut dire que nous, on va au-delà quand même de la proportionnalité mise par la région et on prend en compte aussi éventuellement les aides de la CAF qui interviennent sur les premières et deuxièmes tranches.
Si on est à 75%, on ne va pas au-delà. On maintient complètement la...
Sauf que quand on regarde votre tableau sur les premières et deuxièmes tranches, on ne prend pas en compte les aides éventuelles qui peuvent venir de la CAF. Et sur les non ayant droit à moins de 3 km, vous ne faites pas de proportionnalité, puisque là, la région ne fait pas de proportionnalité, donc ne regarde pas par rapport aux revenus.
Justement,
Il faut être clair, ce n'est pas simple.
On maintient la proportionnalité, ça c'est dans la proposition 2, on maintient la proportionnalité mise en place par la région. Notre proposition 1, c'est de faire encore mieux.
Oui, mais sans tenir... Non, parce que ce que je veux dire, c'est que là, vous, déjà, si je prends votre proposition, on ne prend toujours pas en compte les aides de la CAF, mais ça, c'est autre chose. Mais sur les non-ayants droit, par exemple, à moins de 3 km, vous avez une participation qui est faite sans connaître les revenus des personnes. Donc, vous n'avez pas de proportionnalité, puisque sur les moins de 3 km, pourquoi la région fait un taux à 195 euros, qui pourrait d'ailleurs passer à 500 ? si nos informations sont bonnes, dans les années à venir, c'est parce que normalement, la région ne souhaite pas avoir de ramassage à moins de 3 km. Ce avec quoi on n'est pas forcément d'accord. Hein. Je le dis très clairement, parce que moi j'estime qu'un enfant qui a un kilomètre, c'est aussi dangereux d'aller à l'école à pied, tout seul, suivant l'âge qu'il a, que celui qui est à 10 km, en dehors de la partie trajet. Hein. Voilà, donc il n'y a pas. Moi, ce que je regrette, c'est que ce tableau-là, ce que je souhaite, c'est qu'il soit discuté en commission. Je l'avais déjà dit la dernière fois, il faut que ces tableaux-là soient présentés en commission. Ce n'est pas le conseil municipal qui va faire le travail de la commission. Donc, je vous invite à proposer et à présenter ce tableau en commission. Les commissions, je l'ai d'ailleurs dit, Johan, tu tournes la tête peut-être, sauf que je l'ai déjà dit l'année dernière. Il n'y a pas eu de proposition faite à la commission, je le regrette, les commissions sont faites pour ça. Mais je vais le soumettre au vote, ça ne me pose aucun souci. Mais les commissions sont faites pour ça.
Oui, oui, et je fais part de ces propositions lorsque ce point est évoqué en commission. Donc là-dessus, les choses, elles
sont claires. Est-ce que ce tableau a été présenté en commission ?
Le tableau en lui-même, non, mais le principe, voilà. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est pardon. Mais aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on le représente encore en commission. Mais on nous a déjà dit au mois de juillet qu'on allait y retravailler et se pencher dessus. La question, elle est plutôt claire. Maintenant, c'est à chacun de se positionner. Je veux dire, bien sûr que la commission est là pour déblayer le terrain, et c'est tout à fait normal. Mais en l'occurrence, on n'est pas non plus sur quelque chose d'hyper problématique. Et je considère que même ceux qui ne sont pas membres de la commission comprennent très bien là où est la question, et on peut se positionner. Et puis par contre, moi, là où je suis quand même un peu choqué, c'est de m'entendre dire... De toute façon, ceux qui ont moins de moyens, ils ont des aides de la CAF. Donc, du coup, bon, s'il y a des moins importantes, ils peuvent bien payer avec les aides de la CAF.
Non, c'est pas ce que je dis.
Ça me choque un petit peu.
Ce n'est pas ce que je dis. C'est que quand on veut regarder, ce que je dis, c'est quand on veut regarder un dossier, il faut le regarder en totalité. On ne le regarde pas par un petit bout. Et on ne viendra pas me faire dire, et alors certainement pas à moi, qui ai 20 ans de CAF derrière moi, ce que tu es en train de dire. Parce que les dossiers de la CAF, je les connais suffisamment bien pour ne pas aller dans ce sens-là. Donc, je crois qu'à la ville de Saint-Junien, on a une politique sociale qui est suffisamment développée pour ne pas s'entendre dire ça en conseil municipal.
Mais monsieur le maire, moi j'interviens parce que je fais partie de cette génération qui a bénéficié des transports scolaires durant toute ma scolarité. J'en suis extrêmement fier et je me sens redevable vis-à-vis de cette collectivité qui avait fait cet effort.
Mais j'en fais partie aussi, encore plus ancien que toi.
Mais oui, mais de la maternelle jusqu'au lycée, le transport gratuit, ça a été un facteur de progrès social important et une aide apportée aux familles, quel que soit leur revenu. C'est vraiment quelque chose, à mon sens, d'essentiel. Voilà, après, moi, que chacun se
la difficulté,
parce que...
Non, mais la difficulté, elle est très simple. La difficulté, elle est qu'il y a une somme qui a été mise à la charge des familles parce qu'à un moment donné, et on l'a expliqué à de nombreuses reprises dans le Conseil, d'abord, ça a été une demande des élus, je le rappelle, ici, et de la commission des affaires scolaires à l'époque, où la collectivité finançait des bus qui circulaient sans personne à l'intérieur. Donc, je le rappelle quand même, et là, on a un certain nombre de chiffres qui peuvent le prouver, et on a même eu des familles qui sont venues nous voir en nous demandant, lorsque certains bus ont été supprimés, ou lorsque la région a voulu supprimer des bus, en nous disant « remettez des lignes, on est prêt à payer le prix intégral du transport scolaire pour nos enfants ». Je rappellerai l'épisode des enfants et des familles qui habitent à Glane, par exemple, et qu'on a reçu, les parents d'élèves et tout. On a joué le jeu, je dirais, puisqu'on a réussi, avec la région Nouvelle-Aquitaine, à trouver des solutions pour que l'écart soit remis, et à ne pas faire payer, bien entendu, la totalité des transports, à laisser une petite participation à charge de la famille. Néanmoins, on voit bien qu'en mettant une petite participation, on se retrouve avec des bus qui, ce coup-ci, roulent avec les enfants à l'intérieur des bus et qui ne roulent pas à vide. Et c'est aussi, je crois, par rapport à tous nos citoyens qui payent des impôts, un respect aussi de la dépense publique et de l'économie de la dépense publique. Quand vous savez que le prix d'un bus, c'est à peu près 20 000 euros par an, une ligne de bus sur le secteur, quand vous avez un ou deux bus qui tournent avec presque pas d'enfants dedans, parce que, mais c'était humain, je veux dire, les familles pouvaient venir se faire inscrire il y a 7, 8 ans ou 10 ans à la mairie, et les enfants prenaient le bus le jour où il pleuvait ou le jour où la famille ne pouvait pas amener l'enfant à l'école. C'est humain, on le proposait, pourquoi pas. Sauf que pendant tout le reste du temps, on s'est aperçu, et là on a tous les éléments, puisque les chauffeurs et les contrôleurs de la régie départementale des transports à l'époque venaient dans nos bus et constataient que les bus circulaient avec un ou deux enfants. Donc on ne peut pas aujourd'hui se permettre cette largesse-là. Et donc ce que l'on fait là a permis de réduire avec un coût, parce que je rappelle quand même que les 30 euros ou les 25 euros qu'on fait payer à la famille, c'est pour un an de transport scolaire. Donc si vous le ramenez au mois, voilà, c'est un an de transport scolaire. La facture du transport scolaire sur la ville de Saint-Julien, c'est aux alentours de 55 000 ou 60 000 euros, à quelques euros près. Donc c'est vraiment une somme qui est minime. Je veux dire que ce n'est pas une somme qu'on demande tous les mois. C'est une somme qui permet simplement de payer les cartes pour monter dans le bus qui sont remises aux familles. Et en plus, il y a une dégressivité en fonction du nombre d'enfants dans la famille. Donc, voilà. Moi, après, il est bien évident qu'aujourd'hui, je ne vais pas modifier. Enfin, je vais proposer. Je vois mal comment on peut le modifier aujourd'hui. Mais si la commission des affaires scolaires, et je vais remettre le document que vous nous remettez aujourd'hui à la directrice qui est en charge de ces affaires-là, pour qu'elle le présente à la commission. Donc il y aura une discussion en commission avec un tableau et des propositions qui seront faites de manière concrète, parce que je crois que c'est important qu'il y ait des propositions qui soient faites de manière concrète. Maintenant, je vais proposer deux solutions. Soit on vote les tarifs tels qu'ils sont, soit enfin l'intégralité des tarifs tels qu'ils sont, soit on propose de modifier une partie des tarifs, puisque c'est intégré à l'intérieur, et après, donc si on propose de modifier une partie des tarifs, je proposerai au Conseil de voir quel tableau, quelle proposition on prend en compte, la première, la deuxième, ou la première ou la deuxième. D'ailleurs, il y en a deux. Oui.
Alors, je voulais juste préciser, pour ceux qui se poseraient la question, dans nos simulations avec les chiffres actuels, le coût est équivalent, c'est même quelques centaines d'euros de moins pour la mairie, dans nos deux propositions. Donc bon, quelques centaines d'euros, on peut dire que c'est équivalent, parce que ça peut varier d'une année à l'autre. Donc voilà, le coût est vraiment équivalent entre les trois tableaux.
Monsieur le maire, moi juste simplement pour vous répondre quand même sur quelques éléments dont vous venez de faire part dans votre intervention précédente. La question des bus qui roulent en partie à vide, nous on ne la nie pas. Il y a un problème, il avait été évoqué effectivement lors du mandat précédent. La question c'est quelle solution on met en œuvre pour répondre à cette difficulté, et avant d'en arriver au système de paiement par les familles, de reste à charge aux familles, on pouvait imaginer d'autres alternatives. Il y en avait une qui était portée, qui avait été évoquée par notamment Claudine Coutet, qui était on teste aussi les pédibus pour diminuer le nombre d'enfants inscrits sur le cœur de ville. Je ne dis pas que ça aurait fonctionné, je dis que ça peut s'expérimenter, se tenter, avant d'en arriver au principe dit de responsabilisation. Là aussi, sans polémiquer, quand on dit on va faire participer un petit peu les familles, ça les responsabilise et on est sûr que les enfants prennent le bus. Quelque part, c'est le même discours que l'on entend quand sont mises en place des franchise médicale avec une participation sur les boîtes de médicaments parce qu'on a parfois une consommation excessive. Mais je ne veux pas vraiment polémiquer, hein, c'est juste pour dire que c'est une logique semblable en termes de réflexion. Et puis, vous nous dites que 25 euros, ce n'est pas excessif sur une année. Bon, on s'est mobilisé quand il y a une diminution de 5 euros par mois pour les allocations, pour les logements des étudiants. On est dans la même veine, c'est-à-dire que pour les moins fortunés, au sein de notre société, un euro est un euro, et donc nous on considère qu'effectivement il faut mettre de la justice partout où on peut en mettre. Voilà, c'était juste.
Je crois qu'on peut pas tout comparer, parce que les logements des étudiants, c'était pas 5 euros de baisse de l'APL, hein. C'était tout à fait autre chose. Je vous invite à aller revoir le projet de loi qui était présenté, c'était au-delà largement de 5 euros, puisque c'était une révision carrément du barème de l'aide personnalisée au logement, avec éventuellement la possibilité de prendre en compte les revenus des parents, ce qui ne se faisait pas par le passé, et donc qui entraînait la suppression de l'APL pour un grand nombre d'enfants. Après, sur les pédibus et la remarque, ça ne vaut que sur les moins de 3 km, j'entends, mais je pourrais répondre qu'on avait l'exemple type à Glane. C'est-à-dire, quand on a proposé les pédibus à Glane, on a eu un refus et on a eu 20-25 familles qui sont arrivées à la course, c'est le cas de le dire, à la mairie, en disant, si vous remettez pas le bus, ça va pas bien se passer. L'histoire des pédibus, moi, je suis pas contre. Hein. Simplement, aujourd'hui, je constate qu'il y a très peu de monde qui veulent s'en emparer et que ça ne résout pas le problème de la totalité. Je rappellerai qu'on a déjà supprimé un certain nombre de lignes et proposé aux familles des pédibus, notamment entre Fayola et Chantemerle, parce qu'on considérait quand même qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace, enfin de distance entre Fayola et Chantemerle pour aller à l'école primaire et maternelle. Et il a fallu faire jouer toute la diplomatie qu'on a pu avec nos personnels des maisons de quartier pour arriver à faire en sorte que les familles acceptent d'aller à pied de Fayola à Chantemerle, ce qui n'est pourtant pas une distance très, très, très importante. Je me rappelle que je faisais un petit peu plus à cet âge-là, moi, pour aller à l'école, voire même au lycée. Donc, ça ne me paraissait pas complètement incohérent. Néanmoins, ça a été très, très compliqué. Donc, on voit bien aujourd'hui. Par contre, je trouve quand même, moi, je veux bien qu'on compare les franchises médicales avec la suppression des bus. On n'est pas tant sur les franchises médicales, on est plutôt sur l'arrêt de remboursement des médicaments aujourd'hui que sur les franchises médicales. Mais bon, peu importe. C'est pas tout à fait la même chose. Néanmoins, je rappelle ici que on est sur des sommes, je le disais tout à l'heure, de 30 euros, voire 35 euros, de 25 à 30 ou 35 euros à l'année. Donc, on n'est pas au mois, on est à l'année. Donc, on n'est pas dans des sommes mirobolantes, c'est vrai. On est simplement dans des sommes qui ont quand même permis de faire prendre conscience aux familles que, ma foi, il y a peut-être d'autres solutions, parce qu'on n'impose pas de payer les 35 euros. Ceux qui sont à moins de 3 km peuvent essayer d'aller à l'école à pied. On ne leur impose pas d'y aller. Je veux dire, donc, moi, je veux bien tout, mais moi, je serais heureux que beaucoup de familles me disent « Eh bien, j'habite en centre-ville, je ne prendrai pas votre bus, je ne paierai pas mes 25 ou mes 30 ou mes 35 euros et j'amènerai mes enfants à pied ou en voiture, peu importe, mais à l'école. » Monsieur Vacheux.
Oui, puisque ça aborde la question sociale et solidarité, je précise, mais je crois l'avoir fait les autres années, je vais réitérer cette précision, elle me semble opportune, que le CCAS s'est toujours tenu à disposition des familles rencontrant des difficultés sociales. Ainsi, le CCAS intervient pour les familles en difficulté, qu'elles soient en difficulté au propos des bus, qu'elles soient en difficulté au propos des cantines, qu'elles soient en difficulté au niveau du châtelard, etc., etc. Alors, nous n'en faisons pas publicité parce que ce n'est pas notre façon de travailler que de mettre en lumière ce genre d'activité d'intervention, même si, bien sûr, elle est reprise dans les différents bilans que nous établissons. Mais sachez que le CCAS a toujours, 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 dès lors qu'il est sollicité d'ailleurs, que ce soit par les familles ou par les travailleurs sociaux, ou parfois même d'ailleurs par les régisseurs, entre parenthèses, du châtelard, des écoles, etc., nous sommes toujours tenus à côté effectivement de ces situations, hier comme ce sera le cas aujourd'hui et demain. Voilà.
Alors, je n'ai pas levé la tête au bon moment, alors je ne sais pas qui a levé la main en premier. Allez, allez-y.
Moi, je souhaitais juste poser une question. Pourquoi ne pas avoir gardé la progressivité des tarifs mis en place par la région pour les tranches 3, 4 et 5, puisqu'on a quand même des quotients familiaux qui vont du simple au double, et que voilà, avec la prise en charge de la mairie, ces trois tranches, on paye le même tarif.
Mais ça a été un choix de la commission à un moment donné, qu'on a pris en compte et qu'on a respecté. Monsieur Beaubreuil et Monsieur Gandois.
Oui, donc je pense effectivement que ces propositions peuvent être intéressantes, mais ce doivent être étudiées en commission. Ce n'est pas effectivement en conseil municipal que l'on va faire les choses, ou alors il n'y a plus besoin de commission. On va tout déballer en conseil municipal et je ne vois pas comment on va en sortir. Et je pourrais comprendre que ceux qui sont dans la commission découvrent ce tableau et soient un peu surpris. Donc effectivement, je pense qu'il faut passer en commission pour qu'on puisse Ensuite, on ait tous les éléments pour pouvoir éventuellement redébattre en conseil municipal, mais avec les éléments étudiés. Voilà.
Monsieur Gandois et Madame Chasselin.
Alors, moi, je ne fais pas partie de cette commission, mais ce qui serait peut-être intéressant, si ce dossier revient en commission, c'est aussi d'avoir, si c'est possible, un aperçu de la participation des communes les plus importantes, peut-être, du département sur le transport scolaire. Ça nous indiquerait peut-être également, ça nous permettrait de constater que finalement, à Saint-Junien, même en fonction des participations qu'on demande, on est très en dessous de la moyenne de ce qui peut se faire dans d'autres communes.
Je pourrais apporter une réponse à cette question après, Mme Chasselin.
Oui, Philippe, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, moi j'ai des collègues sur d'autres communes et c'est pas par an et c'est pas par famille, c'est par enfant et c'est nettement plus élevé. On multiplie au moins par 3 la participation, ce qui n'est pas le mieux, mais c'est pour dire. Pour revenir sur le Pédibus, c'est un élément qui a été travaillé le mandat précédent dans la commission scolaire et c'est une organisation compliquée sur des secteurs comme le nôtre, sur des grandes villes, dans des quartiers, oui. Sur des communes comme Saint-Junien, c'est compliqué. Il faut trouver soit du personnel et c'est un coût, soit des bénévoles et c'est une organisation. Donc, on y a réfléchi, mais franchement, c'était trop compliqué à mettre en place.
Alors, juste une précision sur la participation des communes. Un grand nombre de communes, mais on pourra vous apporter le chiffre parce qu'on doit pouvoir être en capacité à le récupérer. Un grand nombre de communes font aujourd'hui payer la totalité du coût du transport qui est mis à leur charge par la région Nouvelle-Aquitaine aux familles, pour une raison qui est toute simple, c'est que au préalable, le département de la Haute-Vienne faisait payer un coût très minime aux collectivités. Lorsque c'est passé au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, les coûts se sont envolés, notamment pour les plus de 3 km, pour les moins de 3 km, pardon. Et donc, ça n'avait plus, c'était très, très compliqué pour un certain nombre de collectivités. Il faut savoir que le coût moyen de transport d'un enfant revient. Alors, au département, c'était à peu près à 1 000 euros par enfant et par an. Donc, au niveau de la région, ça n'a pas dû beaucoup varier depuis. Et que, allez, et donc vous avez le coût que fait payer la région. Donc, un certain nombre de communes estimant que ce coût est bien inférieur au coût réel de l'opération sur les... Alors, quand je dis les 12 mois, c'est sur les 8 mois, je ne sais pas combien de mois de scolarité, mais enfin, à peu près 8 mois, on va dire. Sur les 8 mois de scolarité, un grand nombre de communes aujourd'hui font payer l'intégralité du coût, ce qui a soulevé d'ailleurs un grand nombre de discussions. Vous avez pu des fois l'entendre dans les communes, parce que beaucoup de nos communes rurales ont la quasi-totalité de leurs enfants qui sont à moins de 3 km. Et donc, ils sont passés, et c'est pour cette raison que les communes en milieu rural, c'est très compliqué pour elles, sont passés d'un coût qui était auparavant par le département de 30 ou 40 euros par enfant à 195 euros d'un seul coup. Donc, c'est de ce fait qu'elles ont fait payer la totalité, quasiment, du coût aux familles. Vous avez le cas dans un grand nombre de collectivités aujourd'hui où il n'y a plus de prise en charge du coût de transport scolaire par les collectivités. Donc je vous propose, alors comme je le disais tout à l'heure, je vais vous proposer de vote le... Pardon, Joël, oui, excuse-moi. Vas-y.
Je prends le... Le débat en marche, donc je n'ai pas tout entendu. Mais moi, je suis quand même un peu inquiète parce que lors de notre commission, enfin, on a déjà eu 2 réunions de commission où on a discuté de plein de choses. Je crois que je suis assez ouverte pour que, si vous voulez, on discute des sujets que vous souhaitez aborder. Et le retrouver ici comme ça, moi, j'avoue que ça me chagrine un petit peu. Voilà.
Bien, donc je vous propose de passer au vote. Alors, donc, j'ai dit dans un premier temps, je vais proposer une révision du tarif en fonction du tableau qui nous est donné. Mais même si ça n'aboutit pas, je propose que ce tableau soit soumis en commission. Donc, est-ce qu'il y a des élus qui souhaitent qu'on revoie les tarifs en fonction du tableau qui nous est donné ? Après, on verra quelles propositions sur le tableau. Est-ce qu'il y a des votes pour ? Des abstentions ? Donc, 6. Donc, je vous propose de ce fait de passer au vote des tarifs tels qu'ils sont proposés et de donner, je ne sais pas qui c'est qui siège à la commission des affaires scolaires. Bah, oui, voilà. Donc, Johan, tu te chargeras, enfin, je le ferai passer quand même, mais la présentation du tableau pour une prochaine commission des affaires scolaires que je donnerai d'ailleurs à Sylvie Delavie. Donc, sur le vote des tarifs actuels tels qu'ils vous sont proposés sans augmentation, donc l'ensemble des tarifs, le recueil, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, adopté à la majorité, 5 voix contre. Je vous propose de poursuivre avec l'aide communale pour les frelons asiatiques. Notre collègue Laurent Chazelas, j'avais oublié, il me semblait que j'avais oublié quelque chose dans l'histoire.
Par délibération du 18 octobre 2016, le conseil municipal de Saint-Junien a établi la possibilité d'une aide financière aux particuliers pour la destruction des nids de frelons asiatiques. Pour rappel, cette délibération fixe les modalités permettant aux habitants de Saint-Junien de bénéficier de cette aide. Le taux d'attribution de cette aide sera de 50% du coût dans la limite de 40 euros pour une intervention simple, 75 euros pour une intervention nécessitant des moyens plus importants selon la taille et l'emplacement du nid. Pour l'année 2020, les demandes examinées et régulièrement remplies et justifiées représentent un montant total de 623 euros. Le tableau joint en annexe détaille le montant des aides accordées. Il vous est donc demandé de décider de verser aux personnes physiques qui en font la demande, et ceci conformément aux conditions demandées, la somme totale de 623 euros. Et dire que la dépense sera imputée à l'article 61-88.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Thierry Granet, concernant la validation de la demande de subvention pour l'école, pour le projet OCCE 87.
Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, l'association OCCE 87, École de la République, c'est-à-dire en fait la coopérative scolaire, sollicite une demande de subvention de projet de 450 euros. Aucune demande n'avait été déposée avant la limite effective et n'a donc pas été prévue lors du budget primitif 2020. La demande a donc été renouvelée le 20 novembre 2020. Il vous est demandé de leur accorder une subvention donc de 450 euros.
Je remercie le rapporteur. Oui, monsieur Piel.
Monsieur le maire, mes chers collègues, ayant été représentant des parents d'élèves en école primaire pendant quelques années dans plusieurs écoles différentes, dont l'école de la République, je sais à quel point les coopératives scolaires sont importantes pour le bon fonctionnement des écoles et l'éducation de nos enfants, et d'autant plus pour les classes Ulysse, comme celle pour qui est prévue cette subvention. Il me semble que cette demande de subvention pour la classe Ulysse revient régulièrement, obligeant les enseignants à faire une demande chaque année et de la lier à un projet. La ville de Saint-Junien est attachée depuis longtemps au dispositif en faveur de l'inclusion scolaire, et je profite de cette demande de subvention pour vous demander d'aller encore plus loin sur le sujet. Il est important de saluer le travail fait par les enseignants d'Ulysse, et une forme de reconnaissance serait de les soulager de démarches administratives contraignantes. Ces démarches entraînent parfois, comme cette année, des retards au niveau de la demande et donc de l'attribution. Dans d'autres communes, la « dotation » entre guillemets, par enfant prévue pour les élèves en Ulysse est plus importante que la « dotation » par enfant pour les classes normales. Cela se justifie par le fait qu'une classe Ulysse a besoin de plus de matériel et également a moins d'élèves par classe. Une classe Ulysse ayant un maximum de 12 élèves, si on ramène cette subvention de 450 euros au nombre d'élèves, cela fait environ 37,50 euros par élève. Je vous propose donc d'envisager dans le prochain budget et les suivants d'allouer 40 euros de plus par élève en Ulysse. Ce serait un geste fort en termes de reconnaissance de ces classes inclusives pour un coût équivalent aux subventions actuelles. J'invite donc le Conseil à réfléchir à cette question lors de l'élaboration des budgets qui vont venir. Merci de votre attention.
Je vous remercie. Moi, j'entends. Alors, après, c'est une subvention pour une raison toute simple, c'est que déjà on ne connaît pas le nombre de classes ULIS qu'on a, puisqu'il y en a une qui a été rajoutée, il y en a une qui est venue se rajouter il y a 2 ans, je crois, à peu près. D'autre part, je me permets quand même de préciser qu'on joue un peu à la place de l'État et que ça me paraît quand même un peu fort de café aujourd'hui, et on le fait parce que effectivement on a une vocation à le faire, et croyez bien que je suis tout à fait favorable à l'inclusion dès lors que l'inclusion n'amène pas non plus la suppression des IME, ce qui d'ailleurs est ce qu'est en train de faire l'État aujourd'hui en supprimant les places en IME pour les transformer en places de CESAD, et donc à terme de supprimer les classes ULIS également progressivement, puisque on fait de l'insertion dans ce pays, mais de l'insertion qui n'a que le mot insertion, et il faut savoir que des places en CESAD, ça veut dire que ce sont les professionnels qui se déplacent au domicile des familles et donc de l'enfant. Et vous comprenez bien, puisque vous venez de dire tout à l'heure 12 places maxi en ULIS, déjà si des professionnels doivent se déplacer chez 12 familles, je vous invite à calculer le temps qu'ils vont pouvoir passer chez les familles, en sachant que les professionnels parcourent des fois 50 à 60 km pour aller dans une famille. Ça vous donne une idée du nombre d'enfants qui vont rester sur la touche, sous couvert, soi-disant, de l'inclusion que veut nous mettre en place l'État. Donc, moi, on ne va pas tergiverser sur le temps qu'a l'enseignant pour compléter son dossier. Parce que je pense que l'enseignant a quand même le temps de compléter son dossier, d'autant plus que on a toujours dit que c'était un projet, donc que certaines années il pouvait y avoir plus, d'autres fois moins, mais que c'était en fonction du projet qui nous était proposé qu'on attribuerait des aides. Et je suis pas loin de penser d'ailleurs que les enfants, c'est-à-dire la bourse qu'on donne aux écoles, dans nos écoles, par rapport aux enfants, dans cette bourse-là, les enfants des classes ULIS sont déjà pris en compte. Donc ça veut dire que cette subvention-là, elle vient en plus de ce que l'on donne initialement. Il faut le savoir. Donc, je pense que le dossier n'est pas compliqué à compléter, d'autant plus que c'est une association et qu'on ne peut pas allouer comme ça, s'il n'y a pas un projet en face, une aide à une association chaque année, parce que on se doit de justifier, quand on est contrôlé par la Chambre régionale des comptes, des dossiers de subventions qui sont faits par les associations. Donc ce n'est pas l'aide classique au nombre d'enfants, elle est donnée dans l'école. Ça vient se rajouter en plus par rapport au projet de l'enseignant ULIS. Là, c'est 450 parce que sa demande de subvention, elle était à 450, mais on n'a jamais dit que s'il y avait plus, on n'examinerait pas plus. Voilà, donc vous avez la réponse. Mais à partir du moment où c'est une association, puisque là, on passe par le biais de l'association, il nous faut forcément un dossier de demande de subvention. Ça ne peut pas être quelque chose qui est donné comme ça, de manière pérenne. Toutes les administrations ont besoin d'un dossier de subvention qui est attribué. Par contre, après, la subvention de base, donc quand vous calculez la subvention, la subvention qu'on donne là pour le projet, ce qu'on appelle subvention de projet, plus l'allocation qui est allouée par enfant, fait que les enfants de l'ULIS ont beaucoup plus que les autres. Donc déjà, on prend cela en compte. Et je vous dis, c'est pas, on n'a pas forcément limité. Alors bien sûr, si on arrive à une somme de 10 000 euros, on va regarder. Mais on n'a pas limité. Et il appartient à l'enseignant de l'ULIS de nous faire une demande par rapport au projet qu'il souhaite mettre en place, puisque chaque année, ce sont des choses différentes éventuellement dont il a besoin, en fonction, j'aime pas trop parler comme ça, mais de la typologie d'enfants qu'il va avoir dans sa classe. Voilà.
Alors, je tenais effectivement à souligner ce que vous avez dit au début, que la ville de Saint-Junien fait déjà beaucoup pour les classes inclusives. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle fait d'ailleurs beaucoup pour les enfants d'une manière générale, parce que la dotation est effectivement déjà pas mal pour les enfants. Mais comme vous le disiez, alors on n'a pas le droit de donner une subvention de fonctionnement, entre guillemets, à une association, à une coopérative scolaire. Et c'est pour ça que ça simplifierait beaucoup les choses, justement, si on incluait ça dans la dotation. Alors je comprends que c'est effectivement, il y a des années où il pourrait avoir besoin de beaucoup plus. Mais de la même manière que Pour la dotation, les enseignants des autres classes, en début d'année, ils font leurs commandes en fonction de leurs besoins de l'année et en fonction du budget qu'on leur donne à ce moment-là. La classe d'Ulysse, elle pourra faire sa commande avec un budget plus élevé parce qu'elle a de toute façon plus de besoins que les autres classes, sans avoir besoin de faire cette demande de subvention. Et quant au temps passé par l'enseignant, donc c'était quand moi j'étais parent d'élève à la République, c'était déjà le même enseignant qui était en Ulysse. Et déjà, dans tous les conseils de classe, régulièrement, il se plaignait justement des démarches ou alors du temps qui lui avait manqué pour faire la demande. Donc c'est du stress que surtout les enseignants d'Ulysse en particulier, parce qu'ils ont des classes très compliquées, donc c'est du stress qu'on pourrait leur enlever très facilement. Et s'ils ont besoin une année exceptionnellement de plus encore, ils pourront faire de manière beaucoup plus ponctuelle un projet. Mais si déjà on augmente la dotation, je pense que la plupart du temps, ils n'auront pas besoin de monter un projet supplémentaire pour arriver au même résultat. Parce que l'idée, c'est pas de donner plus que ce qu'on donne, même si ce serait bien. Mais l'idée, c'est de leur simplifier les choses et de leur montrer que on prend en compte leurs difficultés et que aux Ulysse, on décide d'emblée de donner plus.
Non mais j'entends ce que vous dites, mais ce que je comprends pas, c'est le temps de l'enseignant, parce que même si on donne plus, le système, il faut connaître le système, c'est-à-dire qu'on alloue une subvention, enfin une dotation par élève. Je vais le dire autrement, on alloue une dotation par élève aujourd'hui aux écoles. Néanmoins, cette dotation, elle permet d'aller acheter du matériel ou autre. Ce matériel, ce sont les enseignants qui nous demandent ce qu'ils ont besoin. Ça veut dire qu'au préalable, l'enseignant, il est quand même tenu de faire le travail. Donc même pour la classe Ulysse, il va être obligé de faire le travail pour nous demander ce qu'il a besoin. Une fois qu'il va avoir fait ce travail-là, au lieu de nous le marquer sur le document qu'il va remettre au service scolaire, il va le marquer sur le document de demande de subvention. Donc, en résumé, si vous voulez, c'est exactement le même travail. Et en plus, il va bénéficier, en faisant ce travail-là, d'une dotation complémentaire, puisqu'il aura de toute façon la dotation de base qui est attribuée à tous les élèves de l'école, et il aura en plus cette dotation qu'on appelle subvention-là, parce qu'elle vient en plus de tout le reste, en sachant que pour les enfants d'Ulysse, on va vérifier, mais je crois bien qu'on est déjà une somme un peu au-dessus, mais bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que le seul travail que ça lui donne, c'est de compléter le dossier de demande de subvention, qui d'ailleurs peut ne pas être fait par lui, puisque c'est à l'association, je ne sais plus comment elle s'appelle, les parents d'élèves de République, qu'on va verser la somme. Donc je ne vois pas le travail que ça lui donne en plus, parce que même si c'est une dotation annuelle, il faudra quand même qu'il fasse le travail, parce que ce n'est pas nous qui allons décider de ce qu'il a besoin, notamment quand vous voyez, je ne l'ai pas là, mais je l'ai vu l'autre jour, pour la demande, ce qu'il nous demande en termes de jeux d'éléments qu'il a besoin, je veux dire que ce n'est pas nos services qui vont faire le travail. Donc forcément, ce travail-là, il va le faire. Donc je ne vois pas ce que ça va lui économiser comme temps ou comme stress.
Je vais vous expliquer, parce qu'il y a d'un côté, il fait un bon de commande comme tous les autres enseignants, donc ça, il remplit un bon de commande. D'un autre côté, une demande de subvention pour projet, ça veut dire qu'il y a un projet décrit. Il y a forcément... Sinon, ce n'est pas une demande de subvention pour projet.
Monsieur Piel, je vous inviterai à venir lire la demande de subvention pour projet et vous verrez qu'on a une vision très large du projet, parce que j'ai une liste à la Prévert sur la demande de subvention. Et on verse avec cette liste-là. Et depuis des années, parce que je connais l'enseignant, depuis des années, il nous a fait cette liste comme ça et on a toujours versé.
C'est peut-être un problème dans la demande de subvention, parce que s'il n'y a pas de réel projet associé à la demande de subvention, ça peut être remis en question, pas par moi. Moi, je suis d'accord pour donner tout ce qu'il demande. Mais est-ce que ça ne peut pas être assimilé à une demande de subvention de fonctionnement qui, dans ces cas-là,
Les demandes de subvention des associations, ce n'est pas que de l'investissement. C'est, 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 Quand vous demandez un jeu...
Une coopérative scolaire, on ne peut pas faire de
oui, je sais. Oui, mais quand vous demandez des jeux ou des choses comme ça, ce n'est pas du fonctionnement, c'est considéré comme de l'investissement.
Elle a un statut associatif, cette coopérative. Hein. Ce n'est pas une coopérative au sens premier du terme. On a vérifié, elle a un statut associatif. Donc on peut faire une demande de, on peut faire un versement pour du fonctionnement, ça pose pas de problème.
Mais sauf qu'elle dépend de l'OCCE et que l'OCCE interdit les
subventions. Elle dépend de l'OCCE 87, mais avec un statut associatif, c'est bien validé avec des.
Nous, ce qu'on regarde, c'est le statut de l'association, si vous voulez. Alors après, l'OCCE peut, mais nous, ce qu'on regarde, c'est le statut de l'association. Donc avec le statut, on peut tout à fait payer ce que je vous disais là tout à l'heure. Après, effectivement, on n'est pas trop regardant sur le projet parce qu'on sait que l'enseignant, il a peut-être autre chose à faire. Je dis quand même, on n'a jamais limité, on n'a jamais, puis d'ailleurs, ce n'est pas notre mission d'aller nous ingérer dans l'activité de l'enseignant. Et donc là, je vous dis, il y a une liste un peu à la Prévert qui a été mise sur le papier. C'est un peu à chaque fois comme ça, peu importe, on verse. Et je pense que tant qu'on pourra le faire, ça permet aussi de ne pas bloquer l'enseignant dans une somme qui est déterminée alors qu'il peut avoir des enfants aujourd'hui. Et on sait très bien, et si vous avez discuté avec l'enseignant, que dans les classes ULIS, il y a 10 ans ou 20 ans, on avait des enfants qui avaient une pathologie. Aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants qui ont une, deux, voire trois pathologies et qui font qu'on a besoin, enfin, ils ont besoin de matériel tout à fait différent de ce qu'il y avait par le passé où on achetait quand même très peu de choses pour les classes ULIS parce que d'abord elles ne fonctionnaient pas comme elles fonctionnent aujourd'hui ce qui est, et je préfère leur fonctionnement d'aujourd'hui à celui qu'il y avait par le passé pour être très clair. Mais voilà, après, s'il a des difficultés pour compléter le document, il peut se rapprocher de nos services et on lui aidera à compléter le document. Mais on a tout à fait la possibilité de par les statuts de l'association, on a vérifié à verser sous cette forme-là, ça pose aucun souci. Et si, en termes de temps, il n'a pas le temps, on regardera le service scolaire, regardera avec lui comment on peut faire pour essayer de remédier à cette situation-là. Oui, Monsieur Vacheux.
Oui, je comprends la philosophie de ton intervention. Je crois qu'il y a un élément également à apprécier. J'ai été aussi pas de bol parent d'élèves, et notamment à la République, et je suis à présent assez proche de l'IME pour différentes raisons. Je crois qu'il y a un élément aussi apprécié qui est la question de la volatilité de ce public. C'est-à-dire que tu dois savoir sans doute que en fait, l'exercice de quantité de classe est quand même très différent d'un mois à l'autre. Tu prends par exemple l'IME, ils ont une codification soleil, nuages, etc., dont le premier précepte est finalement la présence déjà dans la classe ou pas. Donc au compte, si tu veux, du nombre d'élèves, je pense qu'il est probablement difficile pour un enseignant en septembre de parvenir déjà à planifier une activité en janvier-février à l'exactitude des besoins qui seront les siens, matériels, etc. Parce que déjà, le nombre d'enfants présents peut énormément fluctuer. Donc je me dis aussi quand même que cette variable est à prendre en compte parce que si tu fais une dotation comme ça, générale, à un moment X, et que finalement, 3 mois, 4 mois, 5 mois plus tard, pour des raisons d'évolution pathologique, pour des raisons d'évolution sociale, familiale, contexte, enfin bon, il y a tellement d'indicateurs réunis là-dessus, tu vas te retrouver avec un projet quand même très modifié, ne serait-ce que déjà par la quantité des présences. Donc il y a aussi, je pense, une variable, si tu veux, enfin tu vois ce que je veux dire, il y a une variable temporelle, une variable quantité qui est à mon avis également à prendre en compte sur l'exercice de la précision de la dotation. Voilà, enfin je...
Monsieur Ladune. Ah, t'as pas de micro, attends, il arrive. Voilà.
Oui, donc juste, il me semble que les questions liées à l'adaptation du poste de travail, parce qu'en fait il s'agit de ça, c'est un poste d'enseignement, mais quand même pour les enfants au handicap, c'est des questions qui demandent une certaine souplesse. Et si on fixe un barème supplémentaire en fonction de la nécessité, c'est-à-dire si on dit il faut 40 euros de plus par enfant handicapé, je pense que ça renvoie pas. En fait, ça ne renvoie pas à grand-chose parce que l'adaptation, elle va se faire sur plusieurs années. Elle va se faire. Il va y avoir des années où il y aura beaucoup moins de besoins, d'autres où il y en aura bien davantage, en fonction de ce qui existe déjà dans la classe, en fonction du nombre d'enfants accueillis, en fonction des besoins liés au handicap des enfants. Et c'est vrai que l'idée de faire un dossier de subvention, de passer par une association, ça paraît un peu, disons qu'il s'agit de quelque chose qui, à mon sens, devrait être assumé davantage par l'État, par l'éducation nationale aussi, en lien avec la mairie, en lien surtout avec l'enseignant. Mais voilà, le système est effectivement un peu, peut paraître un peu étrange. Mais ce système, il permet aussi d'avoir une souplesse dans les montants alloués et dans la raison de ces montants. C'est-à-dire que autant on peut connaître à peu près les besoins traditionnels d'un élève lambda, même si les élèves lambda, j'en ai pas connu beaucoup, autant les nécessités d'adaptation du poste de travail scolaire au handicap, eh ben, elles vont être extrêmement volatiles, elles vont être extrêmement différentes. Et donc ce système, peut-être est-il imparfait, mais il permet quand même à l'enseignant d'avoir ce dont il a besoin à la bonne année, à l'enseignant, à la limite, nous, ça nous regarde moyennement, mais surtout aux élèves, puisque bon, bah, c'est les élèves qui sont en cause ici. Et c'est un bon moyen pour les élèves d'avoir ces moyens. Alors c'est vrai que passer par cette structure-là, l'éducation étant nationale, cette question-là devrait être traitée certainement au niveau de l'éducation nationale elle-même. Mais je n'arrive pas à voir en quoi le fait de fixer un montant prédéterminé chaque année supplémentaire réglerait la question, parce que certaines années, tout ce montant ne sera peut-être pas utilisé, ou alors l'enseignant va l'utiliser en achetant, en essayant de prévoir les besoins des années futures, en fait, ce qui n'est pas possible dans ces cas-là. On ne peut pas prévoir les besoins des années futures parce que les enfants évoluent, les handicaps évoluent, les matériels utilisés aussi évoluent, et évoluent très, 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 très vite dans ces domaines-là, parce que la question de la prise en charge du handicap change assez rapidement, pas toujours en bien, comme le disait monsieur le maire tout à l'heure, mais elle change assez rapidement. Donc, ce système où, d'année en année, on va voter une subvention en fonction... Alors bon, moi, c'est vrai que le terme de projet, mais voilà, en fonction d'une liste de besoins établis par l'enseignant, me semble le système le plus valable pour nos élèves, pour nos enfants, en tout cas, je veux dire, plutôt ici.
Oui. Non, juste simplement une petite précision, c'est que le fait qu'il y ait des dispositifs UNIF dans les écoles est pris en compte par rapport au montant de la subvention, parce que si mes souvenirs sont bons, c'est 450 euros pour République et Joliot-Curie qui ont un dispositif et les autres ont 350 euros. Donc il y a quand même une différence qui est faite par rapport au fait qu'il y a un dispositif ULIS dans ces écoles-là. Même si la différence n'est pas non plus, mais il y a une différence de 100 euros qui est pris en compte du fait de la présence de ce dispositif.
Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc je vais soumettre aux voix parce que je pense que je ne l'ai pas fait. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Je n'avais pas de remerciements. Monsieur Granet m'avait demandé la parole, donc je vais la lui. Ah, pardon, Madame Tarnot.
Merci, Monsieur le maire. J'avais une intervention à faire. Monsieur le maire, mes chers collègues, vous m'entendez? Le groupe Énergie Citoyenne tient ici à faire part de son inquiétude face aux annonces relayées dans la presse concernant l'avenir de l'usine d'International Paper. En effet, alors que nous sommes à l'aube d'une potentielle crise économique, le fait que le géant américain propriétaire de l'usine fasse savoir qu'il souhaite recentrer son activité sur le carton ondulé et céder à une filiale autonome Spinco la production du papier d'impression, activité du site de Saya, ne peut que susciter une certaine méfiance. Avec ses 600 salariés, nous sommes face à une entreprise dont l'envergure dépasse celle de la cité sayataise. Nombre de nos voisins, amis ou parents travaillent, comme on dit, à Saya ou pour le compte d'une société de sous-traitance liée à Saya. C'est donc tout le bassin économique de l'Ouest, du département et de la Charente-Limousine qui est concerné par cette annonce. Dans ce cadre, il est indispensable de faire preuve de vigilance. Et nous en ferons preuve. Il serait inadmissible qu'une entreprise de cette taille, dont les investissements techniques sont remarquables, soit menacée en tout ou partie et procède à des licenciements pour une rentabilité toujours plus démesurée. La localisation des activités industrielles est un enjeu social et écologique. Et nous le savons, si des activités disparaissent, si des savoir-faire disparaissent, leur retour n'est plus envisageable.
Il ne faut pas que le système reproduise les fautes du passé. Cette usine, reconnaissons-le, c'est aussi l'une des fiertés de notre territoire. Et puis, International Paper, ce n'est pas non plus n'importe quelle activité. Nous parlons d'une usine classée Seveso, dont le périmètre de dangerosité recouvre d'ailleurs une partie de notre commune et dont les activités, si elles venaient à faire l'objet d'un sous-investissement, pourraient faire craindre un risque accru de potentielle pollution, qu'il s'agisse notamment de l'eau ou de l'air. Notre santé et notre environnement sont donc directement concernés par les évolutions envisagées. Le sérieux de la gestion de cette entreprise est une condition indispensable à son existence. Le collectif Énergie citoyenne est donc aux côtés des salariés, des représentants du personnel et des organisations syndicales pour qu'ils puissent obtenir dans les meilleurs délais des informations quant au projet envisagé pour le site de Saya. À tous, nous leur disons, vous n'êtes pas seuls, nous sommes là et serons là.
Je vous remercie pour votre intervention. Alors, je dois préciser que, bon, déjà, ce site sur le plan environnemental est quand même assez exemplaire, puisque aujourd'hui, c'est un site qui respecte non seulement les normes européennes, mais qui est en avance d'ailleurs sur les normes européennes avec les dernières labellisations qui ont été obtenues, avec notamment le nouveau traitement des bois qui a été effectué et mis en place tout récemment. D'autres travaux d'ailleurs sont en cours, hein, parce que ce n'est pas fini, notamment sur la cogénération actuellement, avec un gros contrat qui a été alloué a priori à une société. On suit comme vous, bien entendu, ce qui se passe sur Saya. Après, il faut être très clair, on ne maîtrise pas la décision qui vient des grands groupes des États-Unis. Hein, on a vu ce que ça a donné sur Albany et on peut effectivement faire beaucoup de déclarations les uns et les autres, et c'est pas une critique, hein, je dis les uns et les autres, ça a peu d'influence sur les responsables aux États-Unis qui eux regardent la cotation en bourse tous les matins pour savoir quel est le gain que les actionnaires ont obtenu. Néanmoins, il apparaît dans cette opération, au vu de ce que l'on connaît pour l'instant et qui nous a été transmis par notamment la Fédération des papetiers, qu'il y a une vraie opération boursière qui est en train de se mener, en vue vraisemblablement de mener une OPA sur d'autres entreprises, d'autres maisons, et qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément plus inquiet que cela, mais je vous dis au moment où je vous parle, parce que ça peut évoluer très vite, sur certains sites, puisque quand on regarde la composition de la nouvelle société qui est en train de se mettre en place, qui serait une filiale, puis après une société, par rapport aux entreprises papetières, il se trouve qu'il y a une grosse partie de l'état-major d'IP États-Unis qui bascule aussi sur une partie de la nouvelle société qui gérerait la partie papier, puisque si on comprend bien ce qu'ils veulent faire, ils veulent sortir la partie carton pour que cette partie-là soit cotée en bourse, pour ensuite aller faire une OPA vraisemblablement sur des usines, et notamment celle qui est leur voisine internationale en face d'International Paper, Saya. Alors, ils ne le font pas que pour celle de Saya, ils le font sur l'ensemble des entreprises qui, en France, c'est du même nom, ce qu'ils ont déjà tenté de faire une première fois, qui n'a pas fonctionné. Et a priori, il semblerait qu'ils sont en train d'examiner une nouvelle façon de le faire. Alors, est-ce que ça va entraîner ou pas des pertes d'emplois? Nous n'en savons rien aujourd'hui. C'est beaucoup trop tôt, d'ailleurs, pour le savoir. Et la direction tend... Europe qu'au niveau de Paris n'a pas d'éléments d'ailleurs plus que nous aujourd'hui, voire certains ont découvert ce qui se passait dans le journal, donc puisque tout se joue actuellement aux États-Unis, hein, ça se joue pas chez nous ni à Bruxelles où ils ont leur division Europe. Donc voilà, donc on est en train de regarder cela. Moi, le maire de Saya que j'ai eu vendredi au téléphone n'était pas plus inquiet que cela au vu des éléments qu'il avait pour l'instant. Je ne peux pas vous en dire plus. Si on en sait plus, on vous le communiquera. Pour l'instant, on n'a pas d'autres éléments. On fait très attention parce qu'effectivement,
entre les bruits qui circulent, des suppressions d'un côté, des suppressions de l'autre, de ce qui devrait fermer, pas fermer ou autre. Aujourd'hui, nous, les seuls éléments clonés, c'est que la direction nous dit, on n'a pas d'éléments qui nous aient été communiqués par notre groupe aux États-Unis, et donc on continue le fonctionnement normal de notre entreprise, y compris les 20 investissements, puisqu'il y a des investissements qui sont en cours actuellement, je vous disais notamment sur la cogénération. Donc voilà, c'est les seuls éléments que je peux vous donner aujourd'hui. Et la préfecture suit également ce dossier avec beaucoup d'attention. Et le ministère, la préfecture donc a alerté le ministère de l'économie, oui je crois qu'il s'appelle que de l'économie maintenant d'ailleurs, pour le suivi de ce dossier également. Et s'il y a des éléments, ben, ils nous seront redescendus. Mais au moment où je vous parle, il n'y a pas plus d'éléments que ce que vous avez pu voir, c'est-à-dire une... Alors c'est pas parce que les journaux ont traduit cela comme une séparation, enfin comme une vente. C'est pas forcément une vente, attention, c'est qu'il crée deux sociétés, une liée au papier, au carton, et une liée au papier, dont une sera cotée en bourse, celle liée au carton. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a certainement une OPA qui est en train de se préparer derrière sur d'autres structures, et une autre dirigée par le directeur du développement International Paper États-Unis, et avec également au poste des finances le directeur financier d'International Paper États-Unis. Donc c'est pas une perte totale. D'ailleurs, International Paper garde 20% des actions de la nouvelle société qui va gérer la partie papier. Voilà, donc ce sont les éléments que l'on a aujourd'hui. Après, je ne peux pas vous en dire beaucoup, beaucoup plus à la date d'aujourd'hui. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'ensemble des actions qui vont constituer la nouvelle usine, enfin la gestion de la partie papier, sera composée des actionnaires de la partie papier-carton. De la partie carton, je vais finir par m'y perdre. La partie carton. Donc en gros, on va retrouver les mêmes d'un côté et de l'autre, mais sous deux entités différentes. Voilà. Au stade où on en est aujourd'hui, les éléments qu'on peut vous donner. Après, moi, je n'ai pas d'autres éléments plus que cela à vous donner. Officiellement et officieusement d'ailleurs, pour tout vous dire, j'en ai pas plus. Voilà. Donc, monsieur Granet.
Oui, merci monsieur le maire. Mes chers collègues, c'est au nom des socialistes élus au sein de cette auguste assemblée et au nom de la section du Parti Socialiste de Saint-Julien que je m'exprime ce soir. Nous avons l'honneur de vous proposer d'offrir à notre municipalité un buste en bronze de Jean Jaurès afin qu'il soit exposé dans la salle du conseil municipal de notre ville. Il y a 100 ans, c'était le 9 mars 1920, le conseil municipal de Saint-Julien, sous la présidence du regretté Joseph Lavergnat, a voté à l'unanimité l'achat d'un buste de Jaurès. Nos vénérables prédécesseurs affirmaient ainsi, par ce geste symbolique, leur attachement aux valeurs défendues par le grand homme, figure tutélaire des forces de progrès et unificateur des partis de gauche. On ne sait ce que ce buste est devenu, probablement disparu, lorsque notre ville était administrée par une délégation spéciale pendant la guerre, puisque c'est cette même délégation spéciale qui débaptisa l'avenue Jean Jaurès pour la dénommer avenue du maréchal Pétain. Aujourd'hui, 100 ans après et 115 ans presque jour pour jour après l'adoption de la loi de séparation des églises et de l'État, la loi fut adoptée le 9 décembre 1905, nous sommes le 10, par ce geste symbolique renouvelé, nous vous proposons de réaffirmer avec Jaurès notre inébranlable confiance en l'avenir, eu égard, malgré tout, aux nouvelles dont on vient de parler. Cette confiance n'est ni sotte, ni aveugle, ni volage, a-t-il proclamé dans son fameux discours à la jeunesse, prononcé en 1903 à Castres. Elle n'ignore pas les vices, les crimes, les erreurs, les préjugés, les égoïsmes de tous ordres, égoïsme des individus, égoïsme des castes, égoïsme des partis, égoïsme des classes qui appesantissent la marche de l'homme et absorbent souvent le cours du fleuve en un tourbillon trouble et sanglant. Mais l'effort humain vers la clarté n'est jamais perdu. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements. Mais elle justifie l'invincible espoir. Voilà, mes chers camarades, et j'ose le mot, mes chers camarades, parce que c'est un mot qui est beau, comme disait le poète, le sens que les socialistes de Saint-Julien mettent dans ce geste. Que l'image de Jaurès trônant sur nos travaux soit une source d'ardeur nouvelle à poursuivre dans la voie tracée par nos glorieux aînés. C'est le vœu que nous formulons au crépuscule de cette année mortifère et au seuil de l'année nouvelle qui s'offre comme une promesse d'avenir que nous vous proposons de construire ensemble derrière notre maire Pierre Allard. Je vous remercie.
Je remercie Monsieur Granet et donc la Fédération socialiste. Alors, il est bien évident que ce buste, on l'installera de manière très visible, à l'image d'ailleurs de ce qu'a été Jean Jaurès, parce que je crois que ça a été quand même un grand homme. Alors, on ne va pas refaire sa vie entre le créateur de l'humanité, le défenseur des mineurs, et notamment sur Carmaux, et puis son engagement également qui lui a coûté la vie par rapport au capitaine Dreyfus, vie qu'il a perdue le 31 juillet 1914. C'est d'ailleurs en ce sens qu'on a ces phrases sur notre monument à la paix au cimetière. Et je crois que ça a été un grand homme reconnu par les uns et les autres, même si on n'est pas du même bord politique. Ça a été un modèle à un moment donné pour un grand nombre de personnes. Et je crois qu'il y a une citation, moi, de Jaurès que j'aime bien, sur la liberté, où il disait, je crois que c'était un discours qu'il a fait à la Chambre des députés en 1905, où il disait que la liberté, c'est l'enfant de la classe ouvrière, né sur un grabat de misère et de mine chétive encore, mais qui porte en soi une incomparable vitalité secrète et dont le regard de la flamme appelle la liberté d'un monde nouveau. Et je crois que cette citation, on pourrait toujours la faire nôtre aujourd'hui, quand on voit l'état de notre monde et l'état du monde nouveau qu'il reste encore à construire. Donc ce buste aura la place qu'il mérite au sein de notre collectivité, comme l'avait souhaité d'ailleurs Joseph Lavergne et le conseil municipal en son temps. Je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, vous avez l'ensemble des décisions qui ont été prises depuis notre précédent conseil municipal. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année en faisant très attention à vous. Merci.